a proposé d'apporter la prédication, j'ai tout de suite réfléchi à qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter, de quoi je vais bien pouvoir parler. Et j'ai remis ce sujet entre les mains du Seigneur, qui m'a tout de suite orienté vers un sujet très vaste, mais ô combien nécessaire. En fait, quelque part, je crois que c'est peut-être le thème qui colle à toutes les églises qui existent. Mais c'est un thème qui est parfois un petit peu oublié ou qui peut être mis un peu de côté au détriment de plein d'autres choses. Ce thème, c'est ce que l'Église doit, à mon sens, cultiver le plus, c'est l'amour. L'amour. Ah, vaste sujet, qu'on peut décrire de bien des manières. On peut parler de l'amour de Dieu pour nous, on peut parler de l'amour que nous avons pour Dieu, mais on peut aussi parler de l'amour que l'on a dans le couple. On peut parler de l'amour de son enfant envers son parent et aujourd'hui plus précisément de son enfant envers sa maman. On peut parler aussi de l'amour envers un ami ou une amie. Bref, l'amour se décline de bien des facettes et d'ailleurs dans le grec, il est intéressant de voir que l'amour a plusieurs noms. Eros, agapé, philae, qui ne désignent pas la même forme de l'amour. Mais je crois que une bonne façon de parler de ce sujet, c'est de nous pencher peut-être sur un modèle ce matin, de regarder qui nous a manifesté la plus belle preuve d'amour. Eh bien, vous avez la réponse, évidemment, c'est Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. J'espère que ça, c'est bien clair pour vous. Et ces deux titres découlent découle la perfection que nous devons suivre et tenter au mieux de reproduire. Alors évidemment, nous ne sommes pas parfaits comme le Seigneur. Mais pour autant, cela ne nous empêche pas d'obéir. Et oui, c'est une ordonnance. Soyez parfaits comme votre Père est parfait, n'est-ce pas ? Ressembler au Seigneur n'est pas aisé. Notre vieille nature est difficile à chasser. Mais pour autant, nous pouvons y travailler. C'est l'un des éléments de la sanctification. Alors, examiner toute l'attitude de Jésus durant sa vie serait évidemment bien trop long pour une seule prédication. Mais je nous propose ce matin de nous concentrer sur l'attitude qu'il a eue envers ses disciples et plus particulièrement envers l'apôtre Pierre. Voici donc une recette que je vous propose ce matin pour aimer comme Christ à partir de l'évangile de Jean. Premier ingrédient, de l'amour. Alors je parle d'une autre. De l'amour et de la bonne volonté, de l'implication. Deuxième élément, de la même manière que dans une recette, il faut parfois séparer dans les œufs le blanc du jaune, on va enlever les craintes humaines et les jugements. Et le troisième ingrédient, le plus important, nous allons intégrer l'amour de Dieu, le plus grand que tout. Je vous propose du coup de rentrer dans les premiers ingrédients de cette recette, de l'amour et de la bonne volonté. Et je vous invite à ouvrir pour ça vos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13. Jean, chapitre 13. Alors bon, ça rend un peu petit, je suis désolé, je ne savais pas trop comment ça allait donner. Mais la plupart d'entre vous ont des Bibles. Jean 13, versets 31 à 38. Quand il fut parti, Jésus dit : Maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui. Je lis dans la version du Semeur, pardon. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils de l'homme en lui-même et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez. Et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Simon-Pierre lui demanda, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard, tu me suivras. » Mais Pierre reprit, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » « Tu es prêt à donner ta vie pour moi ?» répondit Jésus. « Oui, vraiment, je te l'assure. Avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. » Le premier élément de ce texte sur lequel nous allons nous arrêter concerne le commandement nouveau du Seigneur. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Si aimer son prochain fait sens parce qu'il s'agit d'un des 2 commandements les plus importants du Seigneur, vous les avez d'ailleurs ? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Mais il y en a un deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces 2 commandements réunissent tous les commandements de l'Ancienne Alliance. Donc, ça fait sens pour nous. Mais alors en quoi ce commandement est-il nouveau ? La nouveauté réside dans l'exemple qui est donné. Comme le Christ nous a aimés. Ah, là c'est un défi, c'est un challenge. Parce qu'il nous a aimés alors que nous étions ses ennemis, des pécheurs. Il a pris l'initiative de nous aimer en premier. Autrement dit, aimer l'autre, même lorsque celui-ci ou celle-ci ne vous aime pas. Là, c'est plus compliqué. Aimer quelqu'un qu'on aime, qui nous aime en retour, bon, bah ça. Mais quelqu'un qui ne nous aime pas, là, c'est plus compliqué. Peut-être vous pouvez penser à ce collègue que vous allez revoir lundi matin. Quand vous allez le voir, vous allez dire, « Oh, je me serais bien passé de le retrouver encore, celui-là. » Aimez même celui qui ne vous aime pas. Mais il ne s'agit pas, attention, d'un amour un peu, ce que j'appelle un amour coup de foudre, d'un amour subi. Et là, il est important de prendre un petit peu le temps pour expliquer de quoi je parle. Et là, je m'adresse surtout aux jeunes. L'amour, on a plein de versions de voir l'amour. Mais souvent, quand on est jeune et qu'on découvre l'amour, alors c'est un truc absolument incroyable. On tombe amoureux de cette fille ou de ce garçon et puis on en vient à penser qu'à cette personne. On est obnubilé. Il peut se passer toutes les catastrophes du monde. Tant qu'on est avec cette personne, tout va bien. Puis on pense qu'à elle. Etc. Ça, c'est l'amour qui est un amour subi. C'est un amour émotionnel, passionnel, mais c'est un amour qui ne dure pas. Il a même été théorisé, hein, les 3 ans et les 7 ans, peut-être vous avez entendu. Ensuite, soit l'amour meurt, soit il évolue. Et c'est bien souvent, je crois, l'une des raisons du pourquoi il y a beaucoup de couples qui finissent par se séparer, parce qu'il n'y a plus cette étincelle là, du début où je pensais qu'à toi. Maintenant, c'est plus trop le cas. Je t'aime, mais il y a plus... Peut-être, en fait, on va s'arrêter là. C'est dommage, parce que c'est le moment où l'amour est en train de muter, qu'il est en train de devenir un amour mature. L'amour qui n'est plus subi, mais l'amour qui devient voulu. L'amour qui existe par un effort. Je t'aime parce que je décide de t'aimer et parce que je fournis les efforts pour t'aimer. Très utile, notamment quand on commence à voir les défauts chez l'autre. Ah, au départ, il était super, et puis en fait, il est ceci, puis il est cela. Puis finalement, il faut quand même l'aimer. Et je fournis les efforts. Ça, c'est l'amour mature, et c'est celui-là qui dure. C'est celui-là qu'on retrouve dans les mariages qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Ce n'est plus un amour subi. Il s'agit d'un amour dans l'action et non d'un sentiment, d'un amour qui décolle d'un effort que Dieu a fourni. Et c'est là le premier enseignement que je tire pour nous. On ne doit pas aimer son frère ou sa sœur en Christ parce que nous avons des atomes crochus, parce qu'il est sympa, parce qu'il nous a accueillis. On s'aime parce qu'on décide de s'aimer. On fournit l'effort, même si parfois on a du mal à s'entendre. Et il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on a du mal à s'entendre. La différence de culture, on ne parle pas le même langage, une différence de point de vue, je le considère un peu pénible, etc. Il y a plein de choses qui font que, finalement, il y en a qui sont plus faciles à aimer dans l'Église que d'autres. Mais non, nous serons reconnus à l'amour que nous avons les uns pour les autres. On n'attend pas qu'un amour fraternel naisse entre nous. On doit le créer. En prenant l'initiative de s'aimer, même si on n'a rien à voir avec l'autre. En fait, ça, ce n'est pas vraiment vrai qu'on n'a rien à voir avec l'autre. Et je vais y venir. La raison est évidente. Si Dieu a choisi ton frère ou ta sœur en Christ, c'est donc que Dieu l'aime. Et si Dieu l'aime, il n'y a pas de raison pour que toi, tu ne l'aimes pas. En fait, c'est ça le lien que vous avez en commun. C'est que vous êtes tous les deux aimés par la même personne. Mais comment se concrétise cet amour dans la pratique ? Et c'est là que l'exemple du Christ est frappant. Il s'est donné pour nous. Non seulement il s'est donné en personne, mais il a aussi donné de son temps. Il s'est mis au service des autres, jusque dans ce que l'on considère comme humiliant. Juste avant, là, dans le chapitre 13, il y a eu un épisode assez frappant qui s'appelle le lavement des pieds. Et c'est un exemple fort. Cette attitude d'amour et de considération de la part de notre Seigneur et Sauveur ne peut pas nous laisser insensibles. Elle doit nous interroger sur la manière dont nous, ses enfants, nous nous considérons mutuellement. Et la manière dont nous nous manifestons l'amour que Dieu nous commande. Ce n'est pas une exhortation, c'est pas un « ça serait bien si vous vous aimez quand même ». Non, c'est un commandement, c'est un ordre. Vous devez vous aimer. Ça, c'est important. Si notre Seigneur l'a fait et nous a montré l'exemple, alors à plus forte raison, devons-nous le faire nous aussi. De plus, à ce commandement est attachée l'identité même du croyant. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Cette manière d'aimer, cette manière d'agir, de se comporter impacte énormément d'aspects de la vie du disciple. Dans un monde plutôt égoïste, centré sur soi, le don de soi, au contraire, fait mouche, parce qu'il va à contre-courant de notre société. C'est cet amour que Dieu nous commande. Considérer l'autre de plus important que nous. Et Paul d'ailleurs écrit aux Philippiens, chapitre 2, verset 3-8, « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Avoir pour leitmotiv cet amour que Jésus nous commande revêt également une dimension d'évangélisation. Oui, je le crois. Parce que nous n'agissons pas de la même manière que nos contemporains. Nous sommes une lumière au sein des ténèbres. Nous sommes le sel qui donne le goût de l'évangile. Non seulement cet amour nous distingue des citoyens du monde, mais il porte la marque de notre différence, de notre appartenance au royaume de Dieu. Plus encore, il est même source de joie, car vous le savez, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci. Acte 20, verset 35. Après avoir commandé à ses disciples d'aimer comme Christ les a aimés, l'apôtre Pierre va manifester son attachement total à son rabbi, son dévouement, sa fidélité, son allégeance. Un peu peut-être comme lorsque vous avez donné votre vie à Christ, si certains s'en souviennent, le moment où vous avez fait de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Ce moment où on est tout feu, tout flamme. Ah, ça y est, je suis prêt à tout pour lui. Et dans le feu du moment, peut-être vous êtes dit que vous pourriez mourir pour votre Seigneur Jésus-Christ, pour la cause de son nom. Parce que souvent, on est plein de bonne volonté au début. Mais si le Christ ne rejette pas la bonne intention et la motivation de son disciple Pierre, il lui prophétise son avenir. Avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. Si de prime abord, cette annonce du Seigneur envers son disciple semble un peu mystérieuse, elle évoque un reniement futur. Pas une fois, pas 2 fois, mais bien 3 fois. Quel coup de froid ! Les jeunes diraient, c'est la clim. Car si Pierre est rempli de bonne volonté, malheureusement, il n'en reste pas moins un pécheur qui a besoin de la transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit. Mais alors, qui dit vrai ? Pierre qui affirme être prêt à donner sa vie pour son Seigneur dès maintenant, ou bien le Christ qui lui annonce que dans un premier temps, il n'honorera pas ses paroles ? Et je vous invite au deuxième ingrédient, deuxième étape de la recette, pardon, celle d'enlever le blanc du jaune, enlever les craintes humaines et les jugements. Alors on va aller un peu plus loin dans l'évangile de Jean, au chapitre 18. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Jésus-Christ a été arrêté, il s'est laissé prendre, c'est important de le rappeler, il ne s'est pas fait capturer, il s'est laissé prendre, et il va être conduit devant le grand prêtre pour y être jugé par les autorités religieuses. Et donc voilà où nous nous retrouvons, Jean chapitre 18, versets 15-18 et versets 25-27. Simon Pierre et un autre disciple suivirent Jésus. Ce disciple connaissait personnellement le grand prêtre et il entra en même temps que Jésus dans la cour du palais du grand prêtre. Pierre, lui, resta dehors près du portail. L'autre disciple qui connaissait le grand prêtre sortit donc, dit un mot à la concierge et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre « Ne fais-tu pas partie toi aussi des disciples de cet homme ?»« Non, lui répondit-il, je n'en suis pas. » Premier reniement. Les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu de braise car il faisait froid et ils se tenaient tout autour pour se réchauffer. Pierre se joignit à eux et se réchauffa également. On saute quelques versets, on raccroche au verset 25. Pendant ce temps, Simon-Pierre se tenait toujours au même endroit et se chauffait. Quelqu'un lui dit « N'es-tu pas toi aussi un disciple de cet homme ?» Mais Pierre le nia en disant « Non, je n'en suis pas. » Deuxième reniement. Un des serviteurs du grand prêtre, par de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, l'interpella « Voyons, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt, un coq se mit à chanter. 3 reniements. Le Seigneur est parfait. Il n'a pas menti. Il sait toutes choses. Malheureusement pour Pierre. Jésus vient d'être arrêté et conduit devant le grand prêtre pour que la volonté du Père s'accomplisse. Les ardeurs de Pierre qui l'ont conduit jusqu'à couper l'oreille droite d'un serviteur du grand prêtre vont vite finir par s'éteindre. Au moment où la situation dérape, où le peuple se retourne contre Jésus et ses disciples, ses craintes finissent par l'emporter. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis l'épisode qu'on a lu juste avant ? Premièrement, Christ n'est physiquement plus avec lui. Il se retrouve tout seul. Et il ne peut alors compter que sur lui-même, du moins en apparence. Car Dieu n'a pas abandonné son disciple. C'est la différence entre la vue et la foi de ce que l'on ne voit pas. Deuxième élément qui a changé, c'est que le peuple risque de se retourner contre lui. Il est donc dans un réel danger. On ne sait pas ce qui peut lui arriver, mais si jamais il prétend qu'il est avec lui, ça sent peut-être pas bon. La crainte des hommes prend le pas sur la crainte de Dieu. Le jugement des hommes prend le pas sur le jugement divin. Avoir la foi quand nous ne sommes pas en danger, c'est, entre guillemets, plutôt facile. Mais lorsque nous risquons jusqu'à notre vie, nous sommes spirituellement en difficulté, reconnaissons-le. Si Pierre avait eu le courage de répondre avec foi « Oui, j'étais avec lui, car je suis son disciple », qu'est-ce qui lui aurait arrivé ? On ne le sait pas. D'un point de vue humain, on se dit légitimement qu'il aurait eu de gros soucis. Du point de vue de Dieu, en revanche, il aurait, c'est une conviction personnelle, très certainement été protégé par le Seigneur. Ce qui me fait dire ça, c'est le projet de Dieu pour Pierre. Ce dernier va occuper une place très importante dans la fondation de l'Église de Jésus-Christ, vous le savez. Pierre a donc manqué de foi. Il a eu peur pour sa vie. Ses intérêts se sont de nouveau portés sur sa personne, alors qu'il avait annoncé courageusement qu'il était prêt jusqu'à donner sa vie pour son Seigneur. Des paroles, mais pas des actes. Pas tout de suite. Mais comment en vouloir à Pierre ? Sommes-nous meilleurs que lui ? Est-ce que nous, on aurait eu le courage ? Aurions-nous eu plus de foi que l'apôtre ? La question est délicate. Il a renié son Seigneur. Il a trahi sa parole. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Troisième et dernier ingrédient de notre recette, l'amour de Dieu, plus grand que tout. On va là encore aller un petit peu plus loin. On va aller au chapitre 21 de l'Évangile de Jean. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Jésus-Christ a été mis à mort, mais il est ressuscité. Jean, chapitre 21, je vais lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » « Alors, Seigneur, oui, Seigneur, lui répondit Simon, « Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu après avoir dit cela, et il ajouta « Suis-moi ». Jésus-Christ est ressuscité et il s'adresse à Pierre. En tant qu'humain, nous pouvons être troublés de la manière dont le Seigneur s'adresse à celui qui l'a renié à trois reprises. On aurait pu s'attendre à un cinglant « T'es encore là, toi ?» Ou « Je te l'avais bien dit ?» Ou encore, Jésus aurait pu se sentir trahi par l'attitude de celui qui était prêt à tout pour lui. Mais l'amour de Jésus va nous surprendre. Il ne lui fait pas de reproche. Il lui repose simplement une question. « M'aimes-tu ?» Je fais ici une petite parenthèse que je n'avais pas prévue. Peut-être que dans ta vie aujourd'hui, tu te sens dans une situation avec le Seigneur où le péché est trop important, trop pesant. Et peut-être que ce matin, le Seigneur te pose aussi cette question à toi. M'aimes-tu ? Renouvelle ton amour envers lui et le Seigneur te pardonnera. Je ferme la parenthèse. La question a de quoi surprendre, mais par elle, le Seigneur invite son disciple à confesser non seulement son amour, mais aussi sa foi en Jésus-Christ. Par trois fois, il lui demande, Jésus a-t-il peut-être mal entendu les réponses ? Ou bien peut-être a-t-il un doute ? Non, Jésus ne doute pas. Mais Pierre lui a douté à trois reprises, ce qui lui a conduit à renier son maître. Et c'est là tout le sens de cette répétition. Et d'ailleurs, Pierre l'a bien compris ainsi. Le texte dit « Il fut peiné ». Ces trois questions du Messie font écho aux trois reniements de Pierre, évidemment. L'apôtre, touché par la triple question du Christ, fait une confession. « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Regardons un petit peu de plus près cette confession. Il commence par « Seigneur », en grec « kurios ». Le mot « Seigneur » porte un sens fort et un sens faible. Ici, il est employé au sens faible. Et dans l'Écriture, à chaque fois que le mot « Seigneur » est employé au sens fort, pardon, j'ai dit quoi, qu'il était au sens faible ? Je me suis trompé, excusez-moi. Au sens fort, il s'adresse exclusivement à Dieu. C'est-à-dire que l'apôtre considère ici Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, ce qu'il est réellement. Il lui dit ensuite « Tu sais tout ». Il confesse l'omniscience de son maître. Et l'omniscience, c'est un attribut divin. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Il reconnaît que le Messie a la capacité de sonder son cœur. Et là encore, c'est un attribut divin. Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Il y a quelque part une forme de risque pour Pierre de se tenir devant le Seigneur. Aïe, qu'est-ce qui va se passer ? Mais il fait la preuve d'une foi authentique dans la crainte respectueuse envers le Seigneur. Parce qu'il s'en remet à son jugement, jugement de son maître. Mais Dieu va honorer sa foi et le rétablir dans sa mission. Là encore, c'est une preuve de l'amour de Dieu qui n'est pas comme le nôtre, où nous, peut-être, nous serions tentés de condamner. Lui rétablit. En lui répétant trois fois de prendre soin de ses brebis, le Seigneur rétablit l'apôtre dans son statut initial, devant témoin en plus. Notre manière d'agir entre chrétiens peut parfois être différente. Nous avons des préjugés, nous sommes difficiles à faire confiance, parfois on s'aime, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est un amour de façade, c'est pas un amour qui est profond. Il est beaucoup plus facile de se juger et de murmurer que de se demander pardon et de chercher à restaurer une relation. Il est plus facile d'abaisser pour s'élever que de s'abaisser pour élever l'autre. Il est plus facile de rejeter que d'aimer. Alors évidemment que ces choses-là prennent du temps, mais elles demandent aussi de l'investissement. Nous aimer comme Christ nous a aimés, voilà un sacré défi. Ou plutôt un sacré objectif, un sacré projet. Je le rappelle encore une fois, c'est un commandement du Seigneur. Dans le premier texte, Pierre affirmait à Jésus qu'il voulait le suivre et le Seigneur de lui répondre qu'il ne pouvait pas le suivre maintenant, mais que plus tard il le suivrait, vous vous souvenez ? Pierre se croyait alors prêt à tout pour suivre le Christ, y compris à mourir pour lui. Mais en réalité, il n'était pas encore prêt pour cela. Ces trois reniements pour sauver sa peau l'ont bien montré. Mais désormais, avec un peu plus d'expérience et de vécu auprès du ressuscité, le Seigneur lui annonce que quelqu'un nouera sa ceinture pour le mener là où Pierre ne voudra pas aller. Et le verset 19 explique ces mots. Le Seigneur parle de la mort de l'apôtre pour l'Évangile. Pierre va mourir en martyr. Ainsi, Pierre va marcher dans les pas de son Seigneur en fin de compte. Sa vie va suivre le modèle parfait du Maître jusque dans la mort. Il sera alors un disciple fidèle. Et nous ? Sommes-nous des disciples fidèles ? Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le faire ici à Chambourcy. De temps en temps, à Rue Emmel-Maison, il y a un culte spécial sur l'église persécutée avec portes ouvertes, où on entend des témoignages qui font vraiment froid dans le dos. Je crois que ça remet les choses un peu en perspective parfois, et que ça nous fait du bien, on a besoin de ça, d'être confronté à cette réalité. La réalité de ce qui compte vraiment. Si demain ta vie était en danger à cause de ta foi, est-ce que tu serais capable de dire « non, je tiens bon » jusqu'au bout. En conclusion, aimer comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'est pas simple du tout. Mais pour autant, ce n'est pas impossible avec l'aide du Saint-Esprit. Le Messie ne nous aurait pas donné ce commandement si nous étions incapables d'y obéir. Mais cela demande du temps, cela demande de la volonté. Cela demande des efforts, ça demande aussi de la compassion, ça demande aussi de la fidélité et ça demande, évidemment, je l'ai mis en dernier, de l'amour. Mais pas l'amour comme les humains, l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. S'aimer, j'en suis absolument convaincu, c'est la clé du bonheur et la clé d'une vie d'église saine. L'amour, c'est la clé d'une vie d'église saine. L'amour que nous nous portons prend sa source dans l'Évangile et dans le choix de Dieu de faire de nous ses enfants adoptifs. Nous sommes beaucoup à avoir des frères et sœurs biologiques. Et reconnaissons-le, parfois on ne s'entend pas toujours très bien avec eux. Mais avec une juste dose de compassion et de pardon, des cœurs peuvent être transformés. Alors, voici ma prière pour conclure ce temps, ce message. Que celui qui peut tout produise en nous le vouloir et le faire de cet amour qu'il nous commande. Et j'ai l'absolue certitude que celui que nous aimons par-dessus tout répondra favorablement à cette prière. Amen.